Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi À bout de souffle ? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, parce qu'à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter une personnalité plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs. Des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode, avec moi, on pourrait la qualifier comme étant la voix des sans-voix, la voix de ceux qui auraient aimé partager un rire, un sourire, une discussion avec nous, de ceux qui auraient aimé nous expliquer ce qui leur est réellement arrivé, mais qui ne peuvent pas, de ceux qui auraient aimé fonder une famille, de ceux qui l'ont parfois fondée, mais auraient aimé voir leur enfant grandir. Vous l'aurez compris, ce qu'elle porte sur ses épaules est de la taille d'une planète, et pourtant ce combat, elle le porte à merveille depuis 2016, non sans difficulté, mais avec courage, détermination et humanisme, un modèle de lutte et de résistance pour de nombreux Françaises et Français. Elle est cette lueur d'espoir pour bon nombre d'entre vous, cette force en laquelle vous vous accrochez quand vous ne voulez plus y croire, cette voix qui vous permet de continuer à mener vos combats avec la même énergie qu'au premier jour. Cheveux afro-pampan, regard haut et fier, elle est ce modèle auquel pas mal de jeunes filles noires s'identifient, la voix des sans-voix, je vous le disais, le stylo de ceux qui ne peuvent plus écrire, les yeux de ceux dont on a couvert les leurs avec un drap blanc. Assa Traoré, mon invité, comment ça va, Assa?
Très bien, ça va. Quelle présentation.
On essaye.
Waouh.
C'est toujours la plus travaillée. Très, très content de te recevoir. J'ai l'habitude, avant de faire mes émissions, de toujours sonder un peu mon entourage et de leur demander quelle personnalité vous voudriez que je reçoive sur le plateau. Et souvent, ton nom, il ressort. Assa Traoré, Assa Traoré. Bon, je leur ai dit que je ferai tout pour t'avoir. Grâce à Booba, c'est maintenant chose faite. J'ai l'habitude, avec mes invités, pour les présenter, de faire une fiche d'identité. Toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-15. J'ai quelques questions, il va falloir y répondre. Est-ce que c'est bon pour toi?
C'est parti.
Nom, prénom ou pseudo?
Assa Traoré, et on m'appelle Diallo, parce que c'est Assa Diallo, et parce que mon nom a une histoire, mais c'est Assa Traoré Diallo.
Ok, date de naissance?
85.
Lieu de naissance?
Paris 9e.
Profession?
Aujourd'hui, je me bats pour la justice pour mon frère.
Passion, hobby?
Moi, j'aime bien faire la cuisine.
Ok.
Et c'est... j'aime bien me retrouver avec mes copines.
T'as un plat préféré?
Moi, j'aime bien le poisson. J'aime beaucoup le poisson. J'aime beaucoup la loco. J'aime beaucoup le saga-saga. Okay. Voilà.
On se rejoint sur le saga-saga.
Et... mais bon, après, j'ai un PC mignon pour les plats asiatiques.
Ok. Citation préférée?
Ma mère nous disait toujours que le meilleur des chefs est celui qui laisse régner les autres.
Lieu de résidence?
Paris.
Réseaux sociaux?
Instagram.
Tu le disais, t'es né dans le 9e arrondissement de Paris. Comment elle se passe l'enfance d'Assa Traoré?
Moi, j'ai grandi à Beaumont, à Pers-en-Beaumont, à Beaumont-sur-Oise. J'arrive quand j'ai l'âge de 3 ans. Mon père est des chefs dans le bâtiment. Donc, il a sous la main toute la résidence du quartier où nous vivons. Donc je grandis à Beaumont, et pour ceux qui ont pu déjà venir et ceux qui ne sont pas venus encore, le 6 juillet, on fait la marche pour les 8 ans de la marche de mon petit frère. Donc ça sera l'occasion en tout cas de découvrir Beaumont, qui est une très jolie ville, assez sympathique, pas beaucoup d'habitants. On est entouré d'une grande forêt, donc ça veut dire que nous, on allait en automne avec mon père chercher des châtaignes. L'été, on va cueillir des cerises, des noisettes, des prunes, on va chercher des maïs. Et c'est très familial, parce que c'est pas les enfants, on joue dehors, tout le monde se connaît. Et on est très proche aussi des villes qui est à côté. C'est ça notre enfance. Et je pense que le combat représente beaucoup la façon dont on a grandi et comment notre quartier, comment les habitants le portent, avec cette solidarité, cet esprit en tout cas très, très solidaire, très affectif, très familial, dans lequel j'ai pu grandir.
Vous êtes une fratrie de 17. Comment elle se passe ton entente avec tes autres frères et sœurs? D'ailleurs, tu dis que ce n'est pas des demi-frères et sœurs, c'est mes frères et sœurs.
C'est mes frères et sœurs. Et je l'ai compris après. Mon père a mis ses enfants au-dessus de ses femmes. Et en fait, c'est pour ça que il y avait cette unité, cette union tellement, tellement forte. Par exemple, Adama et moi, on n'a pas la même mère. Mais si je te le dis pas, tu le sais pas. Mais c'est mon frère. Il n'y a pas de distinction. C'est pas. On a grandi comme ça, que ce soit avec mes grands frères, mes petits frères. La famille Traoré, pour moi, c'est comme la famille formidable qu'on peut voir, que tout le monde a pu regarder sur TF1. Cette famille recomposée où dans les premiers divorces, par exemple, quant à Elisabeth qui va se remarier quand elle divorce avec mon père, de sa nouvelle union, de ses nouveaux enfants, ils vont venir vivre pendant quelques temps chez nous à Paris parce qu'ils vivent à Paris. Moi, j'allais en vacances chez Françoise à Bordeaux. Ma mère a élevé mes grands frères. Tata m'a élevé. On pensait que c'était ma mère aussi. On a grandi comme ça. Et c'était très fort parce que mon père était très, très proche de ses enfants. C'est quelqu'un qui parlait énormément. Il était dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui... mon père a beaucoup voyagé. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses et qui nous a raconté beaucoup de son parcours, de son histoire. On sortait beaucoup avec lui. Et il a mis ses enfants, je pense, sur un piédestal. Il a mis ses enfants au-dessus de tout. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette unité très, très forte. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est moi derrière le micro. Mais ma voix, elle se construit avec celle de tout le monde. Et elle est très unitaire. Ma famille, elle est comme ça.
On y reviendra un peu plus tard sur la raison pour laquelle c'est toi d'ailleurs qui porte ce combat avec tout le monde, bien évidemment, à tes côtés. Mais pourquoi c'est toi vraiment en tête d'affiche? Quel genre d'élève c'était Assa à l'école? Comment ça se passait?
Alors moi, j'étais une très bonne élève. J'ai même jamais eu heure de colle. Et mon père était tellement fier de ses enfants. Pour moi, c'était inconcevable que mon père ou ma mère viennent à l'école parce que j'avais fait quelque chose. Donc pour moi, c'était très important d'avoir un bon comportement à l'école. Et très important, c'était par rapport, je pense, c'est ce que mon père a reflété. On dit aujourd'hui, comment je fais pour porter ce combat-là? Je pense que ça m'a construit aussi. Hein. Je pense que la valorisation qu'on peut avoir dans son enfance peut en tout cas emmener la confiance qu'on peut avoir, en tout cas que celle que j'ai eue. Donc moi, à l'école, j'étais une élève, j'étais une bonne élève. J'avais même un casier dans le bureau des profs parce que j'étais référente, j'étais déléguée des délégués. Donc voilà, pour moi, c'était assez important.
Et à la sortie de l'école, qu'est-ce qu'elle fait à sa Traoré? Est-ce qu'elle a des activités, des passions à cet âge-là?
On est à Beaumont, hein, donc ça veut dire que c'était un milieu assez ouvert. Il y avait beaucoup de verdure à l'époque. Donc c'était soit on était dehors, soit on était à la maison. Après, moi, j'aimais beaucoup lire. Il y avait une bibliothèque à Beaumont. J'y allais tout le temps à la bibliothèque. J'aime lire, j'aime ça, j'aime bien les livres. Et on avait une librairie. Mon père me donnait de l'argent chaque semaine et j'allais acheter des magazines qui sortaient, qui étaient hebdomadaires ou mensuels. Ça, c'est un truc que j'aimais bien faire.
Ok. En CM2, tu décides de devenir éducatrice spécialisée, alors que ton institutrice avait demandé à des éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse de venir présenter leur métier. Pourquoi faire ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette rencontre avec ces professionnels, en tout cas?
Elle a été assez décisive dans mon choix parce que j'avais pas forcément pensé à ce que je voulais faire, mais quand ils sont arrivés, j'ai dit waouh. Et en fait, j'avais dans l'idée, dans mon esprit, de dire moi aussi, je veux aider les gens, je veux sauver tout le monde pour devenir en tout cas la meilleure version de soi-même. C'était dans cette idée-là. J'avais envie d'accompagner moi aussi des personnes à s'en sortir. C'était vraiment dans le premier but, c'était ça. Et je me dis, j'ai envie de faire ça.
Et est-ce que quand tu rentres à la maison, tu en parles avec tes parents? Tu leur dis, c'est ce métier que je veux faire plus tard? Là, j'ai eu le déclic, surtout qu'en vrai, en CM2, on a 10, 11 ans. Est-ce que c'est ce choix définitif? Comment ça se fait que ça ne changera pas au fil des années, pardon?
J'ai pas le souvenir. J'ai sûrement dû en parler, j'en ai pas le souvenir aujourd'hui. Et après, moi, on m'a jamais imposé de métier où c'était assez... On faisait assez confiance, ça veut dire que j'étais mes choix d'études, c'était je pouvais faire ce que je voulais. Mais après, voilà, j'avais une idée. Après, moi, quand j'ai une idée, si j'ai envie, en tout cas, quand quelque chose, quand c'est un désir et que c'est une envie, je me donne les moyens pour le faire. Donc après, je vais rentrer à l'IRTS Parmentier, à Paris, passer mon diplôme. Je vais travailler à Sarcelles. Je vais être éducatrice en prévention spécialisée. Et je quitte le travail. Je finis mon travail suite à la mort de mon frère. J'étais en séjour en Croatie. Donc je suis partie... je quitte la France, je dépose mes enfants le 17. L'histoire, c'est... L'histoire a vu que mon arrêt en tant qu'éducatrice se fasse comme ça. Le 17, je dépose mes enfants chez ma mère. Et j'ai vu tous mes petits frères, sauf Adama. Vers 17h, je l'appelle, j'ai dit, mais Adama, t'es où? Je dois partir, je voyage. Et je voulais te faire un bisou. Il m'a dit, ah ça, tu veux que je revienne? Je lui ai dit, non, si t'es avec tes copains à Paris... on se reverra à notre tour. J'ai dit, je t'ai commandé un cadeau qui arrive mercredi. Il me dit, tu reviens de l'aéroport lundi prochain? J'ai dit, oui, directement. Je serai à Beaumont. Il m'a dit, bah, je t'attendrai à la maison. Je prends l'avion de 18. Donc, avant de partir, je vois les gendarmes rentrer dans notre quartier. J'appelle chez moi. Je dis, il y a les gendarmes qui rentrent dans notre quartier. Il y avait ce truc où on avait un peu peur de la police, des gendarmes. Cette crainte de qu'il se passe quelque chose. Je prends l'avion le 18. Et le 19 matin, je parle avec mon petit frère pour son anniversaire. Et le 19 au soir, on dit que mon frère est mort. Et le 20, j'arrive à Paris et je ne suis plus retourné travailler.
C'est quoi la première réaction que tu as quand on te dit ça? Comment tu réagis? En plus, tu le dis, tu es à l'étranger, tu es en Croatie, à Rabat, pour être précis. C'est quoi ta première réaction? C'est le choc, le j'arrive pas à y croire, c'est pas vrai? C'est comment toi tu réagis?
Ça se fait en deux étapes. Parce que dans un premier temps, on m'appelle vers 19h, on me dit que à ça. On nous a appelé, on nous a dit qu'Adama était à l'hôpital, il avait fait un malaise cardiaque. Donc là, je marchais, je suis resté, ça m'a tétanisé, j'arrivais plus à avancer. Donc j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quelques mois avant, j'ai ma cousine qui est décédée d'une rupture d'anévrisme. Et je me suis dit, oh là là, mon frère, je suis pas là, c'est grave. Et on me rappelle 15 minutes après, on me dit, non, t'inquiète pas, il est en garde à vue, on va aller voir ce qui se passe. Donc je me dis, là je me redétends, la soirée elle passe et aux alentours de 23h, j'ai ma petite sœur Baye qui m'appelle. Et en fait, dès qu'elle m'appelle, je l'entends pleurer. Et là je me dis, il s'est passé quelque chose. Et je savais au fond de moi qu'il s'était passé quelque chose. Et j'avais fait le lien avec l'appel de 19h et je tends le téléphone à ma collègue Sonia. Je lui dis, Sonia, s'il te plaît, je crois qu'il y a un problème chez moi, mais je peux pas l'écouter moi. Dis-moi ce qui se passe. Et là, c'est comme ça que j'apprends que mon frère il est mort. Et quand je suis là-bas, pour moi, c'est pas réel. Il y a un truc je me dis, c'est pas possible. Je me dis, mais on va pas me mentir. Et je prends mon téléphone, premier réflexe, j'appelle les journalistes. Je me suis dit, on en était. J'ai pas envie que mon frère soit un fait divers. J'avais peur qu'on ne sache pas qu'on a tué mon frère. Et le lendemain, je prends l'avion, j'arrive à Paris. Il y a 6 gars qui viennent me chercher. Et juste avant de rentrer dans notre quartier, je lui dis, j'avais peur de rentrer dans mon quartier. J'avais ce sentiment de peur. Et je lui dis, on est resté une bonne trentaine de minutes avant de rentrer. Et je lui dis, attends un peu. Si je rentre dans le quartier, qu'il y a tout le monde, parce que c'est comme une allée. Mmh. Et je lui dis que s'il y a tout le monde et que tout le monde me regarde, c'est que mon frère, il est mort. Mais si j'avais espoir en rentrant dans le quartier que ce soit comme d'habitude.
Que rien n'ait changé.
Et je lui dis, c'est bon, on y va. Et j'arrive et je vois que tout s'arrête. C'est comme si qu'on m'attendait et tout le monde me regarde. Et j'ai pas le courage de m'arrêter, donc je vais me garer, on se gare en bas de chez ma mère et je monte. Et c'est vrai, mon frère est bien mort. Je suis pas resté longtemps, j'ai dû rester peut-être une heure à la maison, pas plus. Et je suis redescendu et là j'ai dit, on a tué mon frère.
C'est à quel moment justement que tu comprends que c'est une bavure policière et peut-être une intervention qui aurait mal tourné? À quel moment tu comprends que c'est vraiment...
Quand ils ont menti, le premier soir, quand on dit qu'Adama il est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, qu'il avait pris de l'alcool et de la drogue, ce qui est faux. Donc le procureur, même Yves Janier, en tout cas, les autopsies vont le démontrer. Et c'est bien réel 7 ans, 8 ans après. Que c'est des menteurs, qu'Adama n'avait pas d'alcool, ni de drogue, ni de maladie cardiaque et d'infection. Le procureur va se faire muter suite à tout ça. Et je me suis dit, là, il faut se battre. faut se battre, il faut, on va partir. Et je me suis dit, il faut que le monde entier sache qu'on a tué mon frère. Il y avait cette, et j'avais peur, j'avais peur qu'on oublie mon frère, j'avais peur que les gens reprennent leur vie en septembre, j'avais peur qu'en l'année d'après, que ce soit Adama, qu'on n'en parle plus, qu'on ait tué mon petit frère, qu'il ne se passe rien. Et c'est ça qui m'a, ça m'a énormément porté. Parce que je voulais que le nom de mon frère, j'ai dit que le nom de mon frère va porter quelque chose. Et je veux que le monde entier, je veux que tout le monde sache qu'on a tué mon petit frère. Et c'est un combat après qui a dépassé Adama. Et c'était plus Adama, mais c'était pour tous les Adama Traoré. Et on a compris tout de suite, quand on a déshumanisé, mon frère n'était plus une victime, mais un coupable. Quand on a essayé d'incriminer ma famille, je me suis dit, waouh. C'est nous sommes les victimes, mais c'est nous on se fait attaquer. Et là, on savait qu'on devait partir.
Et justement, comment on s'organise pour qu'on n'oublie pas Adama? À ce moment-là, en tout cas en 2016, comment vous vous organisez? En famille, vous discutez de quoi? Vous parlez de quoi après tout ça? Qu'est-ce qui se dit?
C'est très instinctif. Il n'y a même pas de discussion qui se fait. Ça veut dire que c'est une évidence pour nous tous. Vraiment, personne se dit non, c'est une évidence, on lui doit, mon frère. Vraiment, c'est fallait y aller. Tout le monde a dit on y va et on va se battre, on ne va pas lâcher. Et ça, c'est, on part tous, en tout cas, d'un même élan. Et après, il y a les militants qui sont venus au moment de la mort de mon frère, tout de suite, comme Youssef, comme Mami, comme Samir, le MIB, comme beaucoup d'autres personnes. Et moi, je marche beaucoup à l'instant, beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde autour de nous qui était là. Ces militants-là nous disent, ça, il faut s'organiser, il faut organiser un comité pour réclamer la justice pour ton frère. C'est comme ça qu'on fait. Et je dis, écoute, et on forme ce comité, mais on le forme avec tout le monde. On le forme avec des copains de mon frère, on le forme avec des amis à moi, on le forme avec des personnes inconnues qui vont arriver, avec chacun avec ses compétences, et on y va. Mais pour moi, ce qui était important à ce moment-là aussi, parce que j'avais l'idée qu'on n'oublie pas mon frère, c'était mon idée, en tout cas ultime, de dire, je veux que justice soit rendue pour mon frère, mais je veux que tout le monde le sache en même temps. Il fallait que ce combat, on l'ouvre. Moi, ma famille, pour ceux qui ont lu le livre Lettres à Adama, on parle énormément de ma famille. On a juste là. Et ma famille est multiculturelle. C'est la famille d'Adama Traoré, on a de tout. Et ce combat, il fallait l'ouvrir à tout le monde. Pareil, il fallait que tout le monde, je voulais pas que ce soit, que ça reste que entre nous, dans notre quartier, ou que entre personnes noires, mais je voulais que tout le monde, ceux qui ne subissent même pas les violences policières, ne restent pas spectateurs. Donc on va très très vite ouvrir le combat et on va créer des liens de solidarité avec d'autres causes, avec d'autres injustices, avec... On va faire des tournées de quartier, des tournées des centres-villes, dans les campagnes, dans la France. Pour aller en tout cas apporter de la solidarité avec ceux qui en avaient besoin. Et pourquoi pas créer des alliances après. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir parler du combat et de dire ce qui se passe. C'est passé pour mon frère. Et ça va grandir et Adama va devenir tous les Adama Traoré. On va commencer à dénoncer toutes ces injustices qui se passent, les violences dans les quartiers populaires, la discrimination, le racisme. Quand mon frère va mourir, nous on s'est fait énormément attaquer parce qu'on a dit qu'il y avait des violences policières. C'est un mot qu'on n'avait pas le droit de dire. On a imposé la violence policière, on a imposé ces questions-là. Et aujourd'hui, on en paye encore les frais, on va au front. Moi j'ai eu des procès, j'en ai encore, parce qu'on a osé se lever, on a osé dire les choses, on a osé parler. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a tué mon frère, on est la voix vivante d'Adama, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça.
C'était quel genre de frère, Adama Traoré? Parce que pour mener une telle lutte, même si le sang c'est le sang et le sang ça bouge pas, mais pour mener une lutte aussi féroce, pour s'y impliquer dans le temps de cette manière-là, c'est quel genre de frère c'était?
Je pense que ce combat, il est très représentatif de ce que mon frère il est. Si mon frère n'était pas une belle personne, personne ne nous aurait suivis. Personne ne serait venu, nous aurait dit c'est pas une bonne personne, il est méchant, ou Adama était très gentil. C'était même très introverti. Adama, il parlait très très peu, assez timide. Adama aimait beaucoup ses copains. C'est quelqu'un qui est voyagé, qui aimait énormément le foot. Donc, il était... Après, c'était un monsieur justicier. Il pensait qu'il pouvait régler toutes les injustices. Donc, voilà, de dehors, des petites bagarres, des petites choses comme ça. Mais parce qu'on ne peut pas... Voilà, je leur disais toujours, mais on ne peut pas régler les problèmes de tout le monde et à chaque fois, parce que ça peut se retourner contre vous et malheureusement, parfois, c'est arrivé. Mais c'était quelqu'un de très gentil. Et j'ai même pas besoin de développer plus que ça, parce que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans nos amis, ils sont toujours là, ils sont encore là. Et ça représente vraiment ce que mon frère, il était. Mon frère était gentil, très gentil.
Comment ils l'ont vécu, tes enfants, toi? Parce que tu as 3 enfants, quand même. Comment ils ont vécu tout ça et comment ils le vivent encore aujourd'hui, cette lutte?
Mes enfants étaient là au moment où mon frère est mort. Moi, j'étais pas là, comme je te disais, je les avais déposés. Et bah, ça fait partie d'eux, en fait. Ce qui est important, dans ce que j'entends souvent, oui, même hier encore, on me dit, mais vous avez sacrifié votre vie. En fait, j'ai rien sacrifié du tout. C'est aucun sacrifice, on ne nous a rien imposé. On nous a imposé à vie la perte de notre frère. On nous a imposé à vie un sentiment de solitude, un sentiment de tristesse. Quand on nous dit, est-ce que vous avez déjà fait le deuil? En fait, le deuil, il ne se fait pas, on apprend à vivre avec. Il n'y a pas de deuil. Parce qu'il y avait avant Adama et après Adama. Et aujourd'hui, on apprend à vivre notre vie sans lui, mais tout en le faisant exister. Parce que Adama, il existe à travers nous, à travers les souvenirs. Et mes enfants, ou ma propre vie, c'est partie intégrante de ma vie. Quand je me lève le matin et que je dois nourrir mes enfants, donner de l'amour à mes enfants, m'occuper de mes enfants ou moi-même boire de l'eau, le combat de mon frère en fait partie. Il n'y a pas de distinction. C'est au quotidien. Ça veut dire que le combat, il est là. Il fait partie de notre vie. Il grandit avec nous. Il se construit avec nous. Quand on dit « grandit avec nous », il grandit avec mes enfants. C'est une histoire. Et c'est leur histoire. Et aujourd'hui, mes frères, mes enfants sont porteurs d'une belle histoire, d'une histoire qui a eu un renversement très fort pour la France, pour la position de la question du racisme et des violences policières, des quartiers populaires. Et ça, c'est leur histoire, c'est leur oncle. Et ils le vivent très bien, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas... Le combat, il n'est pas hors notre famille. Il n'est pas hors ma maison, il n'est pas hors moi. Il n'y a pas, y a pas le combat et je dépose le combat et je rentre dans ma vie de famille. Ça en fait partie. Donc, tout le monde le vit assez bien et on continue à vivre le plus normalement possible. De toute façon, un combat, il doit se nourrir, mais il doit se nourrir aussi avec l'espoir. Il doit se nourrir avec de l'amour, il doit se nourrir avec de la vie. Sinon, s'il n'y avait pas d'espoir à travers ce combat, s'il n'y avait pas de rêve même à travers ce combat, personne ne nous suivrait, personne ne viendrait. Et à travers même un drame, à travers la mort de mon frère, ce n'est pas juste demander la justice pour Adama, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et quel espoir et quel rêve on donne à toutes ces personnes-là et à toutes ces jeunesses-là. Mes enfants font partie de ça et il faut que la population, que la jeunesse et tout le monde soit partie de ça. Et on se le doit pour les enfants. Donc ça ne peut pas être à part.
Et est-ce qu'Assa Traoré, il y a des moments où elle a douté, des moments où elle s'est dit... c'est trop pour moi, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de me mettre en retrait, j'ai plus envie de mener ce combat-là sur la scène médiatique.
Jamais. Peut-être que on me pose souvent là cette question, peut-être qu'il n'y a pas de mots peut-être pour le dire. Je pense qu'il n'y a pas de mots, mais c'est comme ça. C'est pas autrement.
C'est en toi et...
C'est comme ça, que ce soit moi ou pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs. Ça ne pouvait pas être autrement. Je pense que si je n'avais rien fait, c'est moi qui aurait dépéri, qui serait tombé dans une profonde dépression. Donc la question ne se pose même pas. Après, je suis de la fatigue. Il y en a comme toi, tu peux être fatigué, comme tout le monde peut être fatigué. Des moments de doute, tout le monde peut en avoir, comme dans leur vie de tous les jours. Je ne dis pas que j'ai aucun sentiment. On en a tous. Mais le combat de mon frère, aujourd'hui, il est là. C'est pas... Cette question, elle ne se pose même pas. Et ce combat, on lui doit, mon frère. On est la voix vivante d'Adama, on lui doit. Je peut-être que j'ai pas de je j'ai pas un mot ou de une phrase et vraiment pour pouvoir l'expliquer, mais non, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Tu le disais en début d'émission, t'aimes bien lire. En 2017, sort un livre intitulé « Lettre à Adama » qu'on a ici, coécrit avec Elsa Vigoureux. Dans « Lettre à Adama », tu racontes une lutte citoyenne inédite contre les violences policières, la bataille judiciaire et médiatique qu'il a fallu mener pour déconstruire les mensonges et rester dépositaire de l'histoire d'Adama. Tu dénonces le comportement et le rôle des forces de l'ordre face à une jeunesse marginalisée et stigmatisée, mettant aussi en lumière le déterminisme auquel ta famille n'a pas échappé. Enfin, tu ravives la mémoire d'un jeune homme dont le prénom s'impose désormais partout en France comme l'étendard de deux exigences, vérité et justice. Comment on prend la décision d'écrire un tel livre? Surtout que là, il faut coucher les mots, du coup, il faut se remémorer tout ça, il faut repartir, entre guillemets, à la bataille. Comment la décision, elle se prend?
Cette rencontre, elle se fait avec Elsa par rapport à... C'est mon avocat qui me l'a... Yacine Bouzrou qui me présente Elsa, qui fait une première interview et qui me dit « Mais à ça, il s'est passé tellement de choses en peu de mois, en peu de mois, qu'on a l'impression qu'il s'est passé tant d'années. Et il faut l'écrire, cette histoire. » Et je lui dis « Vas-y. » Et c'était important de l'écrire. Bon, ce livre, il sort 8 mois après la mort de mon frère, mais il s'est passé tellement de choses. Et ce livre, il a permis, en tout cas, à pouvoir raconter notre famille, pouvoir raconter Adama. Il y a plein de choses qui ne se disent pas, il y a plein de choses qui sont très intimes, il y a plein de choses où on peut rentrer, où c'est assez pudique, il y a plein de choses où c'est très dur à raconter. Et ce livre, en tout cas, il peut le raconter et on impose nos mots, on impose notre histoire, on impose l'histoire d'Adama. Et c'est surtout de dire à nos lecteurs, de dire à tout le monde qu'Adama, sa vie ne commence pas le 19 juillet 2016 dans cette cour de gendarmerie quand on va le retrouver mort à 19h05, mais elle commence bien avant, elle commence avec une histoire, elle commence avec celle de nos ancêtres, avec celle de nos parents, celle de mes grands-parents par exemple, qui vont faire la guerre 39-45 en France. Un de mes grands-parents va mourir dans le sud de la France sur le champ de bataille, et un va repartir au Mali avec une jambe en moins. C'est l'histoire de mon père, de notre père, pardon. Excusez-moi. C'est l'histoire d'Adama, c'est quand mon père quitte le Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos au dos, en cachette, en pleine nuit, parce que son père ne veut pas qu'il parte. Au vu des souvenirs de la guerre qu'il a pu avoir, auxquels ils ont participé, mon père va quand même partir, il va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille. Ici, c'est cette famille... Que nous sommes aujourd'hui, avec qui il va nous apporter énormément de choses. L'histoire d'Adama, c'est mon grand-père qui va mourir en tant que chef du village. L'histoire d'Adama, c'est aussi un nom de famille, c'est Traoré. Traoré, ça veut dire guerrier, ça veut dire que quand vous tuez Adama Traoré, vous tuez toute une descendance, vous allez toucher à quelque chose, vous allez toucher à un nom qui est une très grande importance chez nous. Et c'était important de le raconter dans ce livre et de comment notre famille s'est construite. Et on vient pas de nulle part, on vient pas d'ailleurs, on nous a pas fait. Personne, c'est pas des étrangers qui nous ont fait notre famille. En tout cas, on s'est construite avec nos mamans, avec notre père, qui a en tout cas essayé d'apporter le maximum de choses qu'il pouvait. Et c'était important de raconter aussi ce qui s'était passé dans la mort de mon petit frère. Parce que quand c'est écrit, c'est écrit. C'est beaucoup plus fort. Et on n'écrit pas... Ce qui est écrit dans ce livre ne sont pas des mensonges, mais la vérité, celle qu'on dénonce depuis 7 ans, bientôt 8 ans. Et nous avons eu gain de cause parce que 7 ans après, on reconnaît qu'il y a eu des violences et que si les gendarmes n'avaient pas interpellé mon frère et qu'ils n'avaient pas subi, il n'avait pas subi le plaquage ventral, Adama ne serait pas mort. C'est une victoire pour nous. Donc oui, de pouvoir en tout cas faire plier la justice sur ça, même s'il ne veut pas reconnaître et mettre en examen les gendarmes, c'est pas grave, on va en cassation. Le but, c'est de démontrer comment la justice française, elle procède face à la mort d'un jeune des quartiers et que la justice n'est pas la même. Donc ce livre, il a toute cette importance et toute cette force. Et quand on parle à Adama, c'est pour lui dire qu'on est sa voix vivante et que ses mots voyageront partout dans le monde entier. Et un livre... ça peut toucher aussi d'autres personnes. On a parlé des réseaux sociaux. Il y en a qui vont être plus passionnés sur la lecture. Il y a des choses qui se comprennent à travers des mots. Donc c'est important.
Dans le livre aussi, ce qui est marquant, c'est la préface. D'ailleurs, le livre est nommé, je conseille à tout le monde de le lire. Le livre nous met directement dans le bain, mais dans la préface, il y a cette histoire d'un jeune homme de 24 ans qui vient de voir, il a pris un tir de flashball dans l'œil et qui vient de voir chez toi. Est-ce que c'est toutes ces petites choses ? Il y a aussi, tu parles de, il y a George Floyd, tu t'en parles, il y a George Floyd en 2020, ça t'en parle dans un autre livre. Est-ce que toutes ces choses pardon, qui sont arrivées aussi alimentent le combat et te fait te dire que je ne peux pas m'arrêter en fait ? Là, tel que je suis parti, même si moi je veux m'arrêter, je vais arrêter trop de gens derrière moi, donc je suis obligé de poursuivre.
Non mais oui, bien évidemment, on comprend qu'à travers la mort de mon frère, Adama Traoré est mort parce que nous sommes dans un système qui a laissé passer les choses. Et on ne peut pas se battre juste pour la justice pour Adama, on doit aussi se battre pour les autres et faire changer en tout cas cette façon de changer. Comme je le dis, assumer qu'il y a du racisme dans les institutions, dans la police, ce n'est pas une faiblesse, c'est sauver des vies. Donc on est obligé. Et c'est tellement douloureux et tellement triste quand il y a une famille qui nous appelle ou quand on apprend qu'il y a eu un mort ou un blessé grave et de la douleur qu'ils ont reçue. Personne ne devrait ressentir ça. Personne. C'est tellement... C'est assez fort. Mais aujourd'hui, on est parti dans le combat où aujourd'hui, le nom d'Adama est devenu un symbole des violences policières qui est porteur d'espoir. Et le porteur d'espoir, c'est pour changer les choses. Mais pour changer les choses, c'est pour aller vers l'égalité des choses et la survie des gens.
Le 2 juin 2020, devant le tribunal de Paris, tu rassembles 20 000 personnes selon la police, 80 000 selon les organisateurs. Je me rappelle une grande manif exceptionnelle ce jour-là. En plus, on est en début d'été. C'est un peu après la mort de George Floyd. C'est aussi un peu période un peu après Covid où les gens aussi ont ce besoin peut-être de se retrouver, de se rassembler. Mais en tout cas, il y a ce mouvement qui se fait là. Qu'est-ce que tu te dis ce jour-là ? Est-ce que ce jour-là, on passe encore une nouvelle étape et tu regardes et tu te dis « Ouais, en fait, voilà ce que j'ai réussi, entre guillemets, à créer. » Parce que c'est peut-être même le mouvement le plus massif qui se passe en dehors des rassemblements qui ont lieu tous les ans. Comme tu le disais, il y en a un là, le 6 juillet à Hénin-Beaumont. Mais qu'est-ce que tu te dis en tout cas ce jour-là ?
Je me dis « Waouh, le peuple français est là. » Je me dis, c'est énorme. On a tous les quartiers qui sont là. On a la jeunesse qui sont là. On a les centres-villes. On a ceux qui ne subissent pas les violences policières. On a des hommes, on a des femmes, on a des enfants, on a des plus vieux. On a de toutes les origines, de toutes les pas, des religions ou pas, appartenance sexuelle ou pas. Il n'y a aucune différence à ce moment-là. Tout le monde est là et on scande la même chose. Et on dit la même chose. Et on réclame la vérité et la justice. Et on scande le nom d'Adama, on scande d'autres noms. Et ils ont répondu à l'appel. Et je me dis, ça, c'est le travail qu'on a fait. Ça, c'est tout le travail de l'ombre qu'on a fait. Tous les tournées de quartier qu'on fait. Quand on va voir les autres... quand il y a des autres injustices ou des choses qui se font et qu'on va apporter de la solidarité, du soutien. C'est tout un travail qui brasse, en tout cas. Et je pense que nos mots sont justes. On ne demande pas grand-chose. On demande juste à ce que les gens puissent vivre et que les vies comptent et que les vies comptaient. Donc c'est énorme. À ce moment-là, c'est après coup, hein, je ne me rends pas compte tout de suite. Hein. C'est après coup, même là, ça fait la semaine dernière où on a revu les images et je me dis, waouh.
Tu es d'origine ouest-africaine. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, la pudeur, c'est quelque chose de très important, sacré. Tu le disais même... En amont d'écrire le livre, c'est quelque chose dont on prend conscience, en tout cas. On ne dit pas tout, on ne peut pas tout se dire. Et même dans nos relations, finalement, avec nos parents, il y a cette difficulté à dire « je t'aime », des mots affectueux comme ça. On le montre d'une autre manière. Comment tes différentes mères et tes frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, comment la famille Traoré, dans l'ensemble, a vécu cette exposition médiatique ?
L'exposition médiatique, elle était... Il n'y a pas eu de problème sur ça. Et après, voilà, moi, je faisais tout pour protéger ma famille.
Donc, quand il y avait quelque chose,
quand il y avait un mensonge, je leur disais, vous inquiétez pas, je vais rétablir la vérité. C'est très dur hein, pour une famille d'entendre des choses fausses, des mauvaises choses, des mensonges. Et tu as l'impression que tout le monde le sait, tout le monde te regarde dans la rue. Et je leur disais, vous inquiétez pas, c'est du mensonge, on va rétablir la vérité. Et on a toujours rétabli la vérité. Et dans le combat, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est important. On a gagné parce que la vérité, on la connaît. On sait que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. On sait que ce jour-là, ils n'auraient pas dû. On va juste le justifier en disant que Adama Traoré était grand et costaud, donc ils ont dû user de la force. On a rétabli cette vérité. On a rétabli énormément de vérités. Si on les avait écoutés, Adama serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue. Après, on va dire de drépanocytose. Ensuite, on va dire de chaleur pour un seul homme. Et on finit par dire oui, les gendarmes sont vraiment responsables. Il y a eu de la violence. C'est important. Et je leur disais, vous inquiétez pas. Ce combat, on va le mener avec dignité. C'est pour l'honneur et la dignité d'Adama. Et on va tous marcher, les épaules redressées et dignement dans la rue. Parce que ce combat, il dépasse Adama. C'est un combat pour tout le monde, donc il est juste. Donc moi, ma famille, je les ai toujours protégés, en tout cas, de ça et de dire, vous inquiétez pas. Je leur disais, je vous inquiétez pas. Même quand il y a quelque chose, je leur disais, vous inquiétez pas. On gère la situation.
En décembre 2020, tu es distingué Guardian of the Year par le magazine américain Time. Celui-ci voit en toi une des personnalités qui se mettent en danger pour défendre les valeurs sacrées de la démocratie. Quand on reçoit une telle distinction, je pense qu'il y a deux... Mais tu me le diras, je vais parler pour toi, mais tu me diras si c'est vrai ou pas. Je pense qu'il y a deux sentiments. Il y a peut-être le sentiment de fierté. On est content parce qu'on a mené un combat. Mais il y a ce sentiment aussi de... C'est dommage que ce genre de choses doit être célébré aujourd'hui. Toi, comment tu l'as vécu tout ça? Et comment finalement, même toi, tu as vécu un peu ce côté médiatisation et starification de ta personne que certains vont finir par te reprocher au fil du temps?
Je le découvre en même temps que toi.
Ah.
C'était cette une du Time, je la découvre en même temps que toi, dans la nuit. Je me lève, je crois que c'est 4h ou 5h du matin, mon téléphone, notifications à pas en finir. Et le premier réflexe que j'ai, je vais dans le comité Adama, en gros, je me dis, il y a eu un problème. Je pensais qu'il y avait un problème. Et je découvre ça, je dis, waouh. Et là, je me dis, le nom de mon frère, il est parti jusqu'aux États-Unis.
C'est dingue.
Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai dit, même là-bas, tout le monde sait qu'en France, on a tué Adama Traoré. Et j'ai dit, mon frère, le nom de mon frère a une résonance qui est énorme. Et on a été très surpris, au même titre que tout le monde, à ce moment-là. Mais après, tu dis, la lumière, si elle vient d'ailleurs, il faut la prendre. Et on prend cette lumière et on prend ces ponts qui est entre la France... Et les États-Unis, on prend ces ponts qu'il y a entre la France et les autres mondes. Si ces ponts peuvent nous donner de la lumière, ces ponts peuvent nous donner de la force, ces ponts peuvent nous aider à dénoncer ce qui se passe ici en France et à nous donner de la force pour dénoncer les questions de violence policière, à porter le nom de mon frère, à dénoncer ce racisme et ces discriminations. Et ça a marché. Donc oui, quand ça arrive... Je dis, cette lumière, on la prend. Et c'est vrai que c'est comme une responsabilité qui s'impose et qu'on met sur moi avec ce titre. Et je le dis, on parlera de mon frère dans 50 ans. Le nom de mon frère s'est imposé dans l'histoire de France, comme quand on racontera l'histoire dans le passé, Adama fera partie de cette histoire. Et on l'imposera, elle a été imposée. Et ça a marché parce que à travers ce combat, c'est de dire, comme je le disais au début, c'est pas de faire d'être que entre nous ou dans l'entre-soi, c'est d'imposer ces questions-là aux autres. C'est ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a aussi le milieu social qui est important, où les personnes des quartiers sont les plus touchées, où les personnes les plus vulnérables sont les plus touchées. Mais comment on fait pour que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du pouvoir puissent en parler? Au même titre que ça se fait aux États-Unis de manière très naturelle, où il n'y a pas de problème, c'est de dire on impose ces questions-là à toutes ces personnes-là. On sort de là et ces personnes qui ont du pouvoir, que ce soit des marques de vêtements, que ce soit des sportifs, que ce soit ou autre chose, c'est de dire... vous allez en tout cas porter ces questions des violences policières. Et ça, c'est une victoire encore. Parce qu'avant, ils n'en parlaient pas. Ils faisaient comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, grâce au combat Adama, grâce à tout ça, bah, on a tous ces grands groupes, en tout cas, qui ont porté ces questions-là et qui en parlent et qui sont obligés de construire et d'avancer avec ça et pouvoir aider les autres.
T'as déjà eu peur pour toi ?
Non. Moi, j'ai pas peur.
Tu t'es jamais dit, c'est peut-être fou à se dire d'ailleurs dans une société comme la France, mais tu t'es jamais dit ce combat, il va peut-être...
Tu sais, si t'as peur, t'y vas pas. Si t'as peur, il y a plein de choses qu'on a faites. Si t'as peur, t'y vas pas. Et si t'as peur, faut pas y aller. Parce que quand on y va, on se dit qu'il peut avoir des conséquences et des répercussions, mais il faut y aller. Mais la peur, elle t'arrête tout de suite. Et moi, je conseille toutes les personnes qui ont peur de ne pas y aller. Parce qu'il faut y aller de manière assez déterminée. On a fait plein de choses et on y va. Par contre, quand j'avais été reçu à l'ONU il y a un an et demi, deux ans, j'ai reçu des menaces et des lettres qu'on a mis directement dans la boîte aux lettres de ma mère. Et l'ONU a eu peur, a dit par contre là ça va très loin. Ils ont interpellé la France pour que la France en tout cas puisse réagir. La France a répondu en disant qu'une plainte avait été déposée, qu'ils allaient mener l'enquête et qu'ils allaient mettre une protection si je le souhaitais sur ma famille et moi et les entourages. Sur les réseaux sociaux, des menaces de mort j'en reçois tous les jours, des menaces d'appel au viol j'en reçois énormément. Ça se fait sur la place publique des réseaux sociaux. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de dire pourquoi, quand c'est une femme noire ou quand c'est une femme arabe ou de couleur, on a droit de la menacer sur les réseaux, au-delà de moi. On a droit de la menacer, on a droit de lui faire des menaces de mort, on a droit de d'appeler au viol sur sa personne sans qu'il ne se passe rien. Et comment cette inaction peut mettre en danger, en tout cas, des femmes? Je ne dis pas que je ne suis pas en danger, mais je n'ai pas peur.
C'est une victoire le combat Justice pour Adama?
C'est une victoire pour la France.
Pour la France?
C'est une chance pour la France. Comme cette jeunesse est une chance pour la France.
Quand tu vois tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, quand on voit le Rassemblement National à 32% aux européennes, quand on voit qu'ils ont 34% d'intention de vote pour les législatives qui arrivent, est-ce que... T'as peur pour le futur de la France ou est-ce que toi tu restes confiante et tu te dis que tout se gagne par la lutte et que ça aussi on réussira à le gagner?
Tu sais, on est dans un tournant très important de l'histoire de France. Et je pense qu'aujourd'hui la réaction qui est en face, c'est qu'ils ont peur. On a une jeunesse qui est en effervescence, on a une jeunesse qui est brillante, on a une jeunesse qui n'a pas peur, on a une jeunesse qui va au front, on a un peuple qui est debout. Et ils se disent waouh, il se passe quelque chose, il faut qu'on reprenne le contrôle. Il y a des comportements très coloniaux, on a des institutions très racistes où ils sont assez oppresseurs, où c'est eux qui doivent décider, et là ils se disent c'est plus comme avant. Et quand on parle aujourd'hui de la victoire du Front National, ça s'est pas du jour au lendemain, ça s'est construit. C'est-à-dire que quand on dénonce et quand on dit qu'il y a des violences, qu'il y a des discriminations, qu'il faut ceci, et que certains font comme si de rien n'était et qu'ils ne dénoncent pas, c'est l'occasion de laisser faire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser passer une quelconque injustice et dénoncer tout de suite et partir. Mais ça s'est construit, c'est l'inaction de beaucoup de personnes, en tout cas, qui pouvaient le faire, de pouvoir, ou qui sont garants de nos droits et de la justice et de nos vies, qui n'ont rien fait. Donc aujourd'hui, quand ça arrive, on se dit, oh là là, il faut y aller. Mais sur le terrain, on y est déjà. Et ça fait longtemps qu'on le dénonce.
Assa Traoré, elle a déjà pensé à quitter la France, à se dire « faut que je parte », non pas par peur ou par crainte, mais parce que le système actuel qui m'est proposé, un, je n'y vois pas d'issue, et deux, il ne me convient pas.
On doit la sauver, cette France. On doit sauver notre pays.
C'est notre pays, c'est le nôtre. C'est, malgré tout ce qui se dit, toi, tu continues à penser, à dire...
Il faut continuer, en tout cas, à sauver ce pays. Qui demande à être sauvé et ne pas laisser en tout cas des détracteurs et autres en tout cas en prendre possession. On peut pas partir. On partira. Moi je pars déjà parce que moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Ouais. Donc partir mais pour revenir. Mais pour revenir plus fort. Mais on peut, on doit. ce combat et tous les autres combats sont une chance pour la France. Parce qu'elle doit être une chance, en tout cas, pour l'avenir. Et comme j'ai dit, cette jeunesse est une chance pour la France. Et on doit en tout cas l'imposer. Mais on ne peut pas laisser notre pays comme ça, à la dérive.
Tu dis quoi aux jeunes qui ont perdu la confiance au système qui soit politique, institutionnel, judiciaire, policier, même au système de santé? Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu confiance en tout ça. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là? Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui ne votent plus? On le sait, c'est le problème de notre société aujourd'hui. Ceux qui peuvent créer la bascule, ce sont ceux qui votent le moins. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux?
Moi, je leur dirais que je les comprends. Que je les comprends, que je peux même comprendre leur douleur, que je peux même comprendre leur tristesse, que je peux même comprendre beaucoup de choses, que je peux même comprendre leur colère. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens de l'autre côté puissent comprendre, parce que c'est toujours à eux qu'on pose des questions. Mais je pense que c'est à nous de poser des questions. Pourquoi on a brisé cette jeunesse? Pourquoi on a cassé cette jeunesse? Pourquoi on casse des hommes? Pourquoi ces hommes, on les voit soit sous terre, soit par terre, soit en prison? Pourquoi on a appris à cette jeunesse à ne pas aimer la France? Pourquoi on ne leur a pas donné les plus belles choses? Pourquoi on ne leur a pas donné l'amour d'aimer ce pays? Pourquoi on leur a renvoyé que des choses négatives en disant « on va vous renvoyer, on va renvoyer vos parents, vos ancêtres ». Comment on peut dire ça à un enfant qu'on veut renvoyer des gens de sa famille, de sa communauté, et que cet enfant puisse en tout cas entendre et aimer ces mots? Et pourquoi on a été aussi violent avec eux? Pourquoi on a eu un système éducatif qui n'a pas su les écouter ou les comprendre parce que certains n'avaient pas la bonne couleur de peau? Et pourquoi, parce qu'on vient d'un quartier, on est forcément coupable de tout? Et pourquoi? C'est à nous de poser les questions. On n'est pas au pouvoir, nous. On n'est pas garant, on n'a pas de pouvoir d'appliquer des lois. Par contre, c'est nous qui avons des questions. Pourquoi on a appris à cette jeunesse à ne pas aimer leur pays? Et moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse, bon, on va changer les choses, mais on ne peut pas le faire tout seul. Par contre, on va changer les choses et vous allez vous approprier ce pays, le pays et les choses, et on va changer les choses ensemble. Et bien évidemment, il faut voter. Mais après ça, c'est vrai que c'est un choix qui reste très personnel. Et moi, j'aime pas le vote par dépit. Le vote ne devrait pas se faire par dépit. Le vote, il devrait se faire parce qu'on a des convictions et parce qu'on a un choix. Et aujourd'hui, malheureusement, ces dernières années, on vote parce qu'on n'a pas le choix. Donc déjà, on a une jeunesse où c'est pas assez facile, mais on leur dit en plus, faut voter par dépit parce que vous n'avez pas le choix. Mais la liberté, elle est où à ce moment-là? Et oui, bien évidemment, il faut voter parce qu'il faut être le meilleur citoyen et la meilleure qu'on peut être dans le pays dans lequel on vit. Parce qu'on est là, on construit les choses, on change les choses. Et j'ai envie de leur dire, bon bah, vous avez le droit de participer à la construction de cette France. Mais pour pouvoir y participer, il faut que, de l'autre côté, il faut qu'on leur dise, on les laisse participer à eux-mêmes, à la construction de leur propre vie.
T'as déjà pensé à faire de la politique ou à créer un parti politique?
On en fait déjà inconsciemment. Ce qu'on fait avec le comité Adama, c'est ça déjà.
Mais créer un parti à part entière, c'est quelque chose qui ne vous parle pas?
Comité Adama.
C'est ça votre parti
C'est ça, on est le peuple.
Est-ce que le peuple un jour il pourra prétendre aux institutions, aux différentes institutions,
se présenter? C'est le peuple qui décide.
Comment elle se sent à sa Traoré dans la société d'aujourd'hui? Comment elle se projette sur l'avenir? Et qu'est-ce qu'elle dit à ses enfants?
Pour l'instant, on est dans un train dans lequel on est monté en 2016, où on a construit beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, et on n'est pas encore arrivé au bout de ce train. Puisqu'on n'est pas encore arrivé au bout de la justice, même si on a gagné beaucoup de choses. Et moi, mes enfants, bon bah, on vit le plus normalement possible. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. On essaie de changer de pays. J'essaie de leur montrer beaucoup de choses. Leur apprendre énormément de choses. Je suis très fier, je suis très content de mes enfants. Qui je pense, ont un très bel avenir, en tout cas devant eux. Je ferai tout pour. Et je pense comme n'importe quel parent. Et tout va bien.
Toi, tu te sens bien. Yep, ça va.
Je me sens bien, oui et non. Je me sens bien parce qu'il faut continuer à avancer, parce que la vie, elle est là. Je me sens pas bien quand on sait que voilà, Adama, il n'est pas là. Il y a rien qu'on puisse faire dans les moments de nos vies, que ce soit festif, que ce soit des naissances. Là, on a l'année qui arrive dans quelques jours et c'est très difficile. À chaque fois, même si c'est 8 ans après, c'est comme si c'était hier. Et on nous dit, waouh, on nous a enlevé quelqu'un, on nous a enlevé notre frère. Et ça, c'est, je ne peux pas dire qu'on le vit très bien. On apprend à vivre avec. On ne vit pas bien avec. On apprend juste à vivre avec. Mais sinon, je me sens bien. Je me sens bien parce que je sais que le nom de mon frère, il est porteur d'espoir.
La Cour d'appel de Paris a confirmé le jeudi 16 mai dernier le non-lieu en faveur des gendarmes présents au moment de la mort de ton frère lors de son interpellation en juillet 2016. Comment toi, t'as vécu cet épisode? Et à la sortie du tribunal, tu dis, pourtant on est 7 ans après, ce n'est que les 8 ans même après, on est, ce n'est que presque 8 ans, ce n'est que le début du combat. On vous demande de l'endurance, on vous demande du courage et on vous demande de la force.
Bien sûr, ils nous ont laissé 8 ans. Ils savaient qu'ils allaient partir sans non-lieu. Sauf que nous, on a gagné dedans. C'est qu'on a fait reconnaître à la justice que les gendarmes sont bien responsables de la mort d'âme. Et ça, c'est une victoire qui est énorme. Tous les juges qu'il y a eu avant ont menti. Les gendarmes ont menti, ça, on l'a fait reconnaître. Et on nous dit qu'aujourd'hui, OK, il y a des violences, mais ils ont dû user de la force nécessaire parce qu'Adam a été costaud. Là, c'est qu'un chapitre. C'est bon. Maintenant, c'est officiel. On sort de ce chapitre-là. Maintenant, on va dans l'autre chapitre. Et bien évidemment, il faut de l'endurance, parce qu'on ne change pas les choses d'un claquement de doigts. Il faut du temps et de la persévérance. Et je pense qu'ils ont compris qu'on ne lâchera pas. Mais plus on avance, plus on met à nu un système et plus on démonte. C'est trop gros. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire, plus c'est gros, bah plus ils s'enfoncent, bah plus on est là. Ils peuvent faire, ils ont donné le non-lieu comme ils le voulaient, mais c'était tellement gros que là, que nous, on brasse encore plus de gens avec nous. Ils créent l'effet inverse. Et là, nous allons en cassation.
Après la cassation, c'est quoi le...
La Cour européenne.
Il y a plus haut que la Cour européenne après où on, c'est...
Bah, le plus haut, c'est qu'on aura imposé le nom d'Adama et la question des violences policières en France, dans l'histoire française. Et ça, personne ne peut l'enlever.
Dans ce combat, pour t'accompagner, il y a le maître Bouzrou, Yacine Bouzrou, que j'en profite pour saluer, avec qui on échange parfois sur Instagram, une très belle personne. Quelle a été son importance? Parce que j'ai l'impression que ça a été plus qu'un avocat pour toi.
C'est une machine de guerre, cet avocat. Il est puissant, il est malin, il est futé, il sait où il va, il n'a pas peur. On a choisi le meilleur. C'est le meilleur pour moi.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Assa Traoré?
De belles choses, plein de belles choses. Que Dieu nous accorde une longue vie à nous tous, qu'on puisse accompagner nos enfants le plus longtemps possible, qu'on puisse les voir grandir, les voir profiter, de pouvoir les accompagner, de pouvoir être là dans les moments mous, dans les moments festifs. Que nos parents puissent être là à nos côtés longtemps, qu'on puisse voyager dans le monde entier, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses à découvrir et à voir, de se nourrir de tout ça, de continuer à le combat, et que surtout que les soutiens qui sont là, que la force qu'ils ont est dans leur âme et dans leur cœur et dans leur poing, qui continuent à être là avec nous, qu'on puisse avoir la justice et qu'on puisse en tout cas... avancer le plus normalement possible.
C'est possible encore d'avancer normalement?
Bien sûr que c'est possible.
C'est possible.
Sinon, on serait aujourd'hui dans des champs de coton.
J'ai l'habitude, à ça, pour finir, avec mes invités, de faire un jeu. Je vais commencer des phrases et je vais te demander de les terminer si c'est bon pour toi. Être une femme aujourd'hui, c'est...
Avoir de la voix.
Être une femme noire aujourd'hui, c'est...
C'est puissant.
La religion pour moi, c'est...
Intime.
La France pour moi, c'est...
Le peuple.
Si Adama pouvait nous entendre, j'aimerais lui dire que...
On l'aime.
J'aimerais dire à mes 3 enfants que...
Ils peuvent être fiers de leur tonton.
Les violences policières sont aujourd'hui...
À bannir.
Le Mali pour moi, c'est...
Je C'est le Mali pour moi, c'est mon pays.
J'aimerais dire à mes frères et sœurs que
de continuer à marcher la tête haute, d'être digne et d'être fier d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux.
Le combat que je mène prendra fin.
Le combat que je mène aujourd'hui prendra fin. Je sais pas, le train il va nous emmener où, je sais pas. On est dedans encore.
Dans 10 ans, je me vois.
Dans 10 ans, je me vois avec mes enfants. Et dans leur vie. J'aimerais bien voir mes enfants dans 10 ans, ce qu'ils vont devenir, comment ils seront.
On a le temps de les voir grandir d'ailleurs avec tout ce que tu mènes depuis 2016.
Moi j'ai de la chance, c'est que moi j'ai fait mes enfants très jeunes. Moi mes enfants ils sont grands, ils sont même pas en âge mais même en taille, ils sont plus grands que moi. Donc on fait beaucoup de choses ensemble, c'est assez bien. Et comme j'ai arrêté de travailler, donc je peux être dans leur quotidien, je suis parent d'élèves, je vais chercher à l'école, je les emmène. On fait énormément de choses, je les vois assez souvent.
Pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain, il faut
voter.
Si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais
mon état d'esprit, j'ai envie de dire que je suis déterminé. Je suis bien, je suis bien dans ma vie, dans ma tête. Et je lâcherai pas en fait. J'espère qu'ils l'ont bien. En fait, c'est même pas. Voilà mon état d'esprit.
Tu lâcheras pas. Mon interview du jour était.
C'est vraiment bien. Et merci parce que je fais beaucoup d'interviews. Et quand on pose certaines questions, je leur dis, mais vous avez lu le livre, le journaliste? Et en fait, à vos questions, je sens que vous n'avez pas lu, en tout cas, vous n'avez pas en tout cas feuilleté. Et je trouve ça dommage parce qu'on peut faire des interviews qui sont beaucoup plus percutantes et pas forcément redondantes et comme des d'autres. Et donc, je te remercie, en tout cas, d'avoir pris le temps de lire, de le feuilleter et d'avoir, en tout cas, posé des questions un peu plus poussées ou en tout cas, on a pu aller sur aborder autre chose. Donc, c'était assez sympa.
Bah, merci à toi, je remercie aussi, je vais en profiter pour remercier Maëva avec qui je l'ai lu, pour être honnête, je ne l'ai pas lu entièrement, vu que le temps était court, mais avec Maëva qui a pris le temps de le lire, je l'ai lu avec elle, et qui m'en a fait pas mal de résumés. Il y a un deuxième livre également sur lequel je suis, intitulé Le combat Adama, coécrit avec le philosophe et sociologue Geoffroy de la Gazinerie. Donc voilà, achetez ces 2 livres, ça c'est aux éditions...
Le Seuil. Et l'autre c'est Stock.
Stock. Donc voilà, achetez ces 2 livres, en plus on peut les trouver à très bon prix sur la FNAC avec les revendeurs. Merci à toi d'être venu, comme je te le disais en début d'émission, à chaque fois que je demande « vous voulez que je reçois qui ?», on me dit « Assa Traoré », voilà. Donc c'est fait, j'espère en tout cas que ceux qui nous ont écoutés ont appris énormément de choses, qu'ils ont découvert des choses qu'ils ne savaient peut-être pas. Et je remercie également Booba qui nous a permis de nous mettre en connexion. Booba qui est une très très belle personne et qui est passé aussi par ce plateau. J'en profite également pour remercier Léonard qui était à la technique et Unissa et Arthur qu'on a un peu fait transpirer aujourd'hui qui étaient à la caméra. Je remercie aussi le directeur. Et merci encore une fois à Satra. En tout cas, c'était un plaisir. On est sur presque la fin là, d'À bout de souffle pour cette saison. Il nous reste encore 2 invités. Et les 2 derniers invités, encore une fois, ce sera du lourd comme d'habitude. On espère, encore une fois, que vous apprendrez beaucoup de choses. Cette émission, elle est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Apple Podcasts, Amazon Prime... Amazon Podcast, pardon, Google Podcast, etc. Sur YouTube, grâce à Unissa et Arthur, je le disais, et sur le site monparisfm.com. Je finirai pour dire qu'on a une énorme pensée, encore une fois, je vais le répéter dans cette émission, pour tous les peuples opprimés à travers le monde, que ce soit au Congo, à Gaza ou ailleurs. Et j'en profite aussi pour dire aux jeunes d'aller voter. Voilà, vraiment, allez voter. L'avenir, il est entre vos mains, donc profitez-en pour aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Je sais qu'on dit souvent que voter, ça ne sert à rien, mais si on ne le fait pas, on ne saura pas également si ça sert ou si ça ne sert pas. Donc voilà, allez voter en masse, on ne peut pas laisser le pays aux extrêmes. Voilà, là c'est le journaliste qui a un peu pris position. La neutralité journalistique, malheureusement pour moi, j'estime qu'elle n'existe pas. On peut être neutre dans les idées qu'on expose, mais on ne peut pas être neutre dans la personne qu'on est. Donc voilà, passez une belle soirée, faites attention à vous, et je souhaite un joyeux anniversaire à ma petite sœur. L'émission, elle sort le jour de son anniversaire, donc voilà, bon anniversaire à toi, plein de bisous, je t'aime.
Bon anniversaire. Le 6 juillet, on a la marche Adama à Beaumont-sur-Oise pour les 8 ans, et il faut aller marcher parce qu'on ne peut pas, en tout cas, la haine prendre le dessus, et on a plein de choses à revendiquer. Ça tombe le 6 et le 7, faudra aller voter.
Là je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.
Mon Paris est fait.